Véronique Loire, vous êtes conseillère municipale de l'opposition de la ville d'Arras et vous êtes tête de liste pour le parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Et votre suppléant est Lionel Planard, retraité de la fonction publique.
C'est...
Pour ces élections législatives, vous vous présentez dans la deuxième circonscription du Pas-de-Calais. Alors, première question, évidemment, je ne pouvais pas faire autrement que de revenir dessus. Qu'est-ce qui s'est passé au présidentiel quand même? Parce qu'on a quand même eu une polémique qui a fait couler beaucoup d'encre avec Nicolas Dupont-Aignan, qui avait fait une alliance. Hein. C'était pas, il n'avait pas rallié le Front National. Comment vous avez vécu ça en tant qu'élu local?
Alors, la question. Alors, les gens qui me connaissent savent que je n'ai pas bien vécu ce passage. J'avais demandé à Nicolas Dupont-Aignan de ne pas donner de consigne de vote, comme je le dis depuis des années, hein, que je suis avec lui. Je lui dis, nous ne sommes pas propriétaires des voix des électeurs. D'ailleurs, ça s'est confirmé encore cette fois-ci. Mais Nicolas Dupont-Aignan est un homme d'honneur, est un homme honnête. Ce qu'il a vu, c'était le programme. Et puis, il a essayé de faire bouger les lignes. Hein, depuis des années, alors bon, Marine Le Pen, c'est bien sûr Marine Le Pen, donc on n'entend que son nom. C'est la fille de son père, mais bon, est-ce qu'elle a évolué quand même un petit peu dans le sens de la modération? Et Nicolas Dupont-Aignan a vu un accord de gouvernement. Dans les autres partis, ça se fait aussi. Hein. Tout le monde s'est rallié à Macron à 8h12. François Fillon se rallie à Macron. Nicolas Dupont-Aignan a mis 5 jours à discuter avec Marine Le Pen pour voir tous les éléments du programme. Et puis, on nous le reproche. Alors que notre programme est plus proche de celui de Marine Le Pen ou dans certains Jean-Luc Mélenchon que de celui de M. Macron. Donc, c'était un peu la ligne de suivre le Marine Le Pen plutôt que d'aller. De toute façon, nous n'allons pas vers Macron, ça c'est sûr et certain.
Depuis, évidemment, il s'est passé aussi des choses, hein, puisque à partir du 19 mai, c'est cette fois-ci Yoann Duval, hein, secrétaire départemental dans le Nord, qui a démissionné de Debout la France pour rallier le Front National. Également dans d'autres circonscriptions et d'autres régions, dans les Bouches-du-Rhône et en Saône-et-Loire, hein, des jeunes cadres, Laurent Jacobelli et Maxime Thiébaut également. Mmh. Et pas peur un peu qu'au deuxième tour, qu'est-ce qui va se passer si
Alors, on va procéder justement par ordre. Comme pour la présidentielle, il y a un premier tour, il y a un deuxième tour. Au premier tour de la présidentielle, vous avez bien vu qu'il y avait beaucoup de candidats. Et puis, au deuxième tour, il n'y en avait plus que deux. Les autres ont rallié Emmanuel Macron. Nicolas Dupont-Aignan a rallié Marine Le Pen. Bon, là, nous allons... passé le premier tour des législatives, nous présentons plus 409 candidats sur toute la France. Bon, il y a 577. Bien sûr, il y a eu des petits soucis, il ne faut pas avoir la langue de bois. Hein, il y a eu des petits soucis. Il y a des gens qui sont partis. Mais la semaine suivante, le deuxième tour, nous avons eu plus de 2000 adhésions sur le plan national. 2000 adhésions. De personnes, même des gens qui venaient du FN, qui disaient, ben voilà, on a trouvé l'homme. Je ne vais pas dire providentiel, parce qu'on va me...
On va parler un petit peu du programme, hein, programme général de Debout la France. D'abord, l'axe démocratique. Hein. Alors là, je vois, vous prenez en compte le vote blanc dans les résultats des élections. S'il est majoritaire, le scrutin est reporté, les candidats battus ne peuvent se représenter au nouveau scrutin.
Ouais.
Comment vous allez procéder pour proposer une loi qui, justement, eh bien, prenne en compte ce vote blanc?
C'est une évidence. Si les gens ne sont pas contents, si on reconnaît le vote blanc, on reconnaîtra ces gens qui ne sont pas contents. Il faut arrêter de voter toujours contre quelque chose. Bon, Emmanuel Macron a été élu, oh là là, à 66%. Mais il y avait combien de votes contre Marine Le Pen? C'est même une journaliste qui m'a dit, oui, il a été élu. Alors, je ne sais plus si c'était 31 ou 34%, pas à 66%. Quand on compte le vote blanc et tout ça, il n'est pas élu à 66%. À chaque fois, on vote contre quelqu'un. Donc le vote blanc, les gens ne plaisent pas, on vote blanc, on recommence tout. Bon, c'est sûr que ça ne va pas être facile à mettre en place. Et je vous avoue que je vois pas bien. Mais enfin, là-haut, ils sont sûrement plus intelligents que moi pour savoir faire tout ça.
Alors, on peut y lire également dans ce programme que vous instaureriez un référendum d'initiative populaire et supprimer la loi NOTRe.
Joker.
Ok, alors si on aborde le côté sécuritaire, hein, puisque bah, voilà, c'est aussi au cœur du programme, rétablir les contrôles aux frontières nationales, supprimer les accords de Schengen pour bloquer l'immigration clandestine.
Ben oui, mais il faut arrêter de se voiler la face quand même. On est à un moment où on ne peut pas... Alors, j'entends déjà les gens hurler, mais on ne peut pas accueillir tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas quelque chose pour laisser ces gens dans leur pays? Pourquoi est-ce que là-haut, à la présidence et tout ça, on ne fait pas quelque chose pour arrêter toutes ces guerres? C'est que ça doit intéresser quelqu'un qui est en guerre. Hein, et la jungle de Calais, alors on a évacué toute la jungle de Calais, tout le monde est revenu. On a un candidat qui travaille justement là-bas. Hein. Il dit, mais ça y est, presque tout le monde est revenu. Non, il faut arrêter quelque part. Il faut qu'il y ait des accords entrés au lieu. Il faut qu'il y ait... Enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord pour dire, allez, stop. On ne peut pas accueillir tout le monde. Nos enfants, à nous, nos petits-enfants, parce que moi, je suis grand-mère, nos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, nous avons aussi une candidate dans le Pas-de-Calais. Deux de ses filles sont parties à l'étranger. Ce sont des intelligences, hein, une qui est pharmacien et l'autre qui est chercheur. Ils sont partis. En France, voilà, on laisse tout partir à volo. Et puis, on ne sait pas retenir nos intelligences sur le territoire.
Il y a un deuxième point quand même qui me paraît important, c'est l'instauration d'un délai de carence de 5 ans pour les étrangers avant de pouvoir prétendre aux aides sociales et supprimer l'aide médicale d'État, l'AME. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que les étrangers qui arrivent en France, qui quittent leur pays évidemment parce que c'est pas leur choix de quitter leur pays en temps de guerre, ils arrivent ici et ils n'ont pas d'aide. Comment ils font pour se débrouiller?
Alors là, je pense que Nicolas Dupont-Aignan a voulu freiner l'image, arrêter l'image de la France qui dit « Allez, venez, on va vous soigner, on va... Hein, » Bon, si on met ça quelque part, si on écrit ça, ça freinera l'arrivée de populations qui viennent en France que pour ça. Je pense qu'il y a énormément de choses à revoir, tant sur le plan sécuritaire, sur le plan sécurité sociale, sur le... Tout ça, il y a un tas de choses à voir. Et s'il n'y avait pas de guerre dans leur pays, tous ces pauvres gens qui viennent, qui parlent pas français. Moi, je suis pour intégrer tout le monde. Hein. Mais il arrive un moment, on ne peut plus.
On va parler travail un peu quand même. Alors, mettre en œuvre le travail universel qui, à l'opposé du revenu universel, donne une activité à chaque Français, le travail et la dignité de l'homme. Alors, expliquez-moi un petit peu.
Alors, il y a déjà 30 ans, j'étais sur une campagne décantonale, hein, on disait à cette époque-là, avec un candidat, et je disais, c'était les TUC à cette époque-là, je disais, chaque personne qui reçoit une indemnité devrait donner un petit peu de son temps. Ben, aujourd'hui, c'est pareil. Chaque personne qui reçoit une indemnité, le RSA ou n'importe, devrait vouloir donner un peu de son temps pour la société. La société le paye, il devrait vouloir donner un peu de son temps pour la société. Un revenu universel, bon, c'est bien, hein, mais il faut qu'on donne quelque chose en contrepartie. Et puis, si les gens se lèvent le matin, ça leur remettra le pied à l'étrier. Si on leur fait faire un travail qu'ils ne connaissent pas quelquefois parce qu'ils n'ont plus l'habitude d'aller travailler. Et puis je ne pense pas que Pôle emploi soit vraiment l'endroit qu'il faut pour donner du travail aux gens. Hein.
Un point du contexte social, l'abrogation des réformes du collège et des rythmes scolaires et reconstruire l'école du savoir, de l'effort et du mérite. Alors, c'est ces deux derniers mots qui m'intriguent un peu.
Alors là, c'est mon dada. Mon dada, c'est la famille et l'école. Si on ne reconstruit pas la base de notre société, c'est-à-dire la famille et l'école, parce que bon, les enfants naissent dans la famille, mais à un an ou deux, enfin deux ans, trois ans, après on les met à l'école, ce que je trouve aberrant, ça ne peut pas aller. Les enfants ont quelquefois des parents et des grands-parents qui n'ont pas travaillé. Donc il faut tout réapprendre à ces gens-là. L'effort, c'est l'effort de se lever le matin. C'est l'effort d'entretenir sa maison, de s'entretenir soi-même. C'est la base de la société, c'est la base de la vie. Il y a énormément de personnes qui ne savent même plus ce que c'est, enfin qui ne savent plus ou pas ce que c'est que le travail. Mais il faut leur redonner le goût d'aller au travail, d'avoir un travail, même si c'est que quelques heures par jour ou par semaine, il faut les aider dans ce sens. Il faut arrêter l'assistanat. L'assistanat pour rien, quoi. Parce que beaucoup de gens me disent « mais moi, je préférerais avoir un travail plutôt que d'avoir un RSA ».